déclic, l'écriture du deuil avec Adèle Van Rett et Jérôme Garcin. Si l'on en croit l'esprit du temps, celle ou celui qui vient de perdre un être cher doit impérativement faire son deuil, c'est-à-dire accepter cette disparition, prendre acte de la réalité et se vider, se délester du mort afin de réintégrer dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais le monde trépidant des vivants. Heureusement pour l'humanité, la littérature prend les choses à l'envers. Adèle Van Rett dans Inconsolable et Jérôme Garcin dans Mes Fragiles disent un chagrin dont ni l'un ni l'autre ne peuvent ni ne veulent guérir. Commençons par votre titre, Adèle Van Rett. Inconsolable. Vous avez perdu votre père. C'est, dira-t-on, dans l'ordre des choses. Cet ordre qui est celui des générations, vous ne vous en accommodez pas. Vous refusez de faire la paix avec lui. Pourquoi ?
Je ne dirais pas que je refuse de faire la paix avec lui, parce qu'il n'y a dans mon livre aucune rébellion contre cet ordre établi. Il n'y a pas de colère contre la situation. Il y a en revanche le constat implacable d'un trou dans le réel qui s'impose à moi et qui me fait comprendre que cette expression que vous avez employée de travail de deuil est une chose qui paraît totalement inappropriée face à l'expérience que je vis. Et c'est plutôt ce point de départ-là qui donne lieu à l'écriture. Donc non pas encore une fois un refus du réel, plutôt la nécessité de trouver les mots justes pour décrire ce qui est en train de se passer, puisque j'ai choisi d'écrire le livre à la première personne en donnant la voix à cette narratrice qui me ressemble beaucoup, mais je tiens à dire que c'est une narratrice car c'est une construction littéraire à partir de ce que j'ai vécu. Je puise dans la matière première qu'est mon expérience pour proposer ce livre, de manière à essayer de nommer ce qu'il se passe vraiment quand on fait l'expérience de la mort de quelqu'un de très proche, en l'occurrence mon père. Et cette expérience à décrire est un double défi. Premièrement parce que tant d'autres avant moi se sont emparés de ce sujet. L'histoire de la littérature et l'histoire de la philosophie tournent autour de cette question redoutable qu'est la mort. Donc comment prétendre dire quelque chose d'autre, de singulier, même d'intéressant sur un sujet qui paraît galvaudé tant il a été étudié ou décrit. Et deuxièmement, je sais que de la mort, on ne peut pas dire grand-chose. Qu'une fois que le mot est prononcé, chaque tentative de description, de nommer ce qui est, rate. C'est un échec. Et c'est un échec que j'essaye d'assumer d'emblée, dès la première phrase. Je dis que je sais que je ne parviendrai pas à écrire ce que je voudrais écrire. Ce qui est une manière aussi pour moi de m'autoriser à écrire, puisque je n'essaye pas de réussir quelque chose, mais que j'accepte l'échec, et ce qui est une manière d'esthétiser ce ratage-là. Et donc, je m'inscris là dans une certaine littérature qui fait de l'échec un compagnon dont Beckett fait partie.
C'est Freud, Adèle Van Rett, qui nous a légué le concept de travail du deuil dans un texte connu, Deuil et mélancolie, où il dit effectivement qu'il s'agit de montrer, à travers l'épreuve de réalité, que l'objet aimé n'existe plus et que cela dicte l'exigence de retirer toute la libido des liens qui retiennent le vivant à cet objet. J'ai toujours trouvé cet article un peu brutal. Mmh. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'expression est plus brutale encore, puisqu'on dit tout le temps « faire son deuil ». C'est faire son deuil comme on fait ses besoins.
C'est ça.
Il faut se débarrasser. Effectivement, votre livre va à l'encontre de cette image. De même pour vous, Jérôme Garcin. Et j'ai même senti chez vous, peut-être à l'inverse d'Adèle Van Rett, une certaine colère Vous parlez de la mort presque simultanée, enfin à peu de mois de distance, de votre mère et de votre frère Laurent. Et visiblement, vous ne vous résignez pas à cet état des choses.
Je me sens très proche d'Adèle, pour l'avoir lue. Et évidemment, totalement différente d'elle. D'ailleurs, quand je lis Inconsolable, je suis très admiratif de la manière dont elle met à distance constamment le manque, la souffrance, le chagrin. Et moi, c'est exactement le contraire, quitte à peut-être parfois abuser des sentiments. Cette colère que réfute Adèle, j'ai toujours vécu avec elle. C'est-à-dire que ce refus de m'accommoder de la disparition, d'ailleurs aussi bien des miens que de ceux que j'admire. Je vous rappelle que mes premiers livres, c'était pas sur les miens, c'était le résistant Jean Prévost, ensuite ça a été le résistant Jacques Lucéran ou le jeune Jean de la ville de Miremont, mort en 14-18. Je ne m'accommode pas davantage de la disparition que je ne m'accommoderais de l'oubli. Je n'aime ni l'un ni l'autre. Et donc, j'ai le sentiment d'avoir atteint une sorte de point de non-retour avec la disparition presque simultanée de ma mère et de mon frère, 6 mois plus tard, parce que, en plus, ça a fait remonter, mais comme un tsunami, la mort de mon jumeau sous mes yeux quand on avait à peine 6 ans, suivi...
Tué par un chauffard.
Renversé par un chauffard conduisant une voiture qui ne s'arrête pas après avoir commis son crime. C'est le genre de, vous savez, de scène. On avait à peine 6 ans. Je peux vous dire que la mémoire à ce moment-là, elle est intacte. Cette scène, je peux la décrire seconde après seconde. Et ça inscrit en moi, cette voiture qui continue, ça inscrit en moi une idée du juste et de l'injuste, du bien et du mal qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer et qui s'est inscrit dans le corps d'un garçon de 6 ans. 10 ans plus tard, mon père, qui était éditeur de sciences humaines, qui ne supportait pas la mort d'Olivier, de mon jumeau, s'est mis à faire du cheval. Il est mort de ça 10 ans plus tard. Ces accidents répétés ont fait que 2 choses. C'est que je ne m'en accommoderai toujours pas et je pense que jusqu'à mon dernier soupir, j'aurai le sentiment que je refuse au sens physique, mais pas simplement mental du terme, ces disparitions, et qu'en même temps, là aussi, je pense que c'est une grande différence avec Adèle, ça, malgré tous ces drames, ont malgré tout un avantage et m'ont donné presque un privilège, c'est d'avoir la conviction, le sentiment, pour reprendre le très beau titre d'Emmanuel Berle, sentiment de la présence des morts.
Ouais.
Et cette présence des morts fait que ils apaisent la colère, le refus qui sont les miens. Donc, je suis très proche d'Adèle et pour ces aspects-là, évidemment, très différent.
Mais comment ne pas vivre cette différence quand la différence première est celle des expériences? Je décris ce qui s'est passé lorsque mon père est mort. Je n'ai pas perdu un frère jumeau à l'âge de 6 ans, ce qui, je pense, aurait créé une colère à vie et bien légitime. C'est important de repréciser ça. On n'a pas une discussion abstraite sur ce qu'est la mort ou comment nous réagissons face au deuil de manière générale. Jérôme Garcin, dans son livre, qui est absolument bouleversant, décrit la mort de 2 personnes qui étaient très proches de lui en les inscrivant dans un héritage d'autres personnes qui elles-mêmes sont mortes plus tôt dans l'existence. Le compagnonnage avec la mort est forcément très différent que lorsqu'on la côtoie pour la première fois, c'est pas tout à fait vrai, mais de manière aussi proche, à 39 ans, comme c'était mon cas, et avec un père qui était quand même assez jeune, mais bon, où c'était pas qu'un petit enfant de 6 ans.
Il n'était pas vieux non plus, il avait
65 ans. C'est même très jeune.
C'est même jeune
mais
aujourd'hui.
Mais ça n'a rien à voir. Bien sûr. C'est mon père, pas mon frère. Ça n'a rien à voir avec la perte d'un enfant. Enfin, c'est très important de préciser ici que ce ne sont pas des théories que nous faisons, c'est que, enfin je crois, hein,
ça, je
voilà, nous partons de notre expérience et il n'y a pas quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a tort.
Oui, mais alors, Jérôme Garcin faisait référence à ce très beau livre d'Emmanuel Berle, Présence des morts. Et dans ce livre, Emmanuel Berle, parlant d'un ou d'une de ses mortes, écrit que sur elle, il ne rassemble qu'une chétive collection de gestes et de phrases. Et j'ai retenu ce syntagme, Adèle Van Rett, parce que c'est un peu vrai de ce que vous dites de votre père. Vous dites que voilà, il y a quelque chose, il y a une qui vous manquera pour toujours, mais le lecteur finalement n'apprend pas beaucoup sur ce qu'il a été. C'est-à-dire, on sait qu'il a fait l'école des Chartes, qui est quand même une école tout à fait singulière. C'est une très grande école, très difficile, mais où peu de gens choisissent de se présenter, qu'il est archiviste. Mais pourquoi, finalement, cette discrétion s'est retenue? Ce qui, d'ailleurs, aussi, est très différent de l'approche. Nous en parlerons tout de suite de Jérôme Garcin.
Merci d'employer ce mot de discrétion que je trouve très beau. On me parle souvent de pudeur, mais j'aime beaucoup celui de discrétion et qui est particulièrement approprié. Je n'ai pas écrit ce livre pour faire un portrait de mon père. Voilà. Je n'ai pas écrit ce livre pour proposer des réflexions sur la relation père-fille. C'est pour ça que c'est pas un récit, même s'il y a une narration. La seule chose qui m'a fait écrire, enfin la seule chose, le point de départ et qui a justifié que je donne une chance, ou plutôt que je cède à cette nécessité des mots qui se bousculaient en moi et qui voulaient sortir, c'était la tentative de décrire ce qu'est l'expérience de la mort de quelqu'un qu'on aime autant. Voilà. Et qui, en l'occurrence, est mon père. Mais je le dis dans le livre, une de mes grandes craintes était de figer mon père dans le langage. Le langage, pour moi, était une manière d'essayer de me familiariser avec l'expérience la plus singulière et la plus étrangère à moi que j'étais en train de faire, ce qu'on appelle le deuil. C'est vrai que j'aime pas ce mot. Étymologiquement, le deuil, c'est la douleur. Ça, je veux bien. Mais le deuil est quelque chose qui bizarrement, et là encore, ça n'engage que moi, me paraît toujours ne jamais correspondre à...
Je suis pareil.
Est-ce que je vis? Et donc, ma grande crainte était de proposer des mots et de qui ferait un portrait de mon père et qui ainsi le figerait. Et figer mon père, c'était le rendre moins vivant. Et c'est pas parce que quelqu'un est mort qu'il est moins vivant dans un cœur.
En même temps, si vous permettez...
Oui, Jean Garcin.
C'est pas le père d'Adèle, mais j'ai l'impression de le connaître maintenant. Les détails qui sont donnés, musicaux, humains, affectifs, de cet homme, pas évidemment son histoire professionnelle, me le rendent incroyablement proche. Donc, c'est partout.
C'est partout. Ouais, de donner des choses.
Non, moi, une chose. Alors, évidemment, j'ai dû, si vous voulez, faire une sorte d'apprentissage, parce que vous parlez de votre père, moi, je pense au mien, sauf évidemment que nous ne sommes pas de la même génération, et votre père est de la même génération que moi, ce qui me surprend toujours. Mais d'un autre côté, ce qui m'a touché beaucoup, c'est effectivement son goût pour les Beatles et surtout sa préférence pour Paul McCartney. Parce que moi,
Vous êtes de l'école Lennon ?
Non, ah moi bon. J'ai une vénération pour McCartney. Je trouve que cette voix m'envoûte. Elle m'enchante pas, elle m'envoûte. Et déjà, c'était un peu difficile à l'époque, parce que dans les années 70, quand on est progressiste, on préférait les Stones aux Beatles, et dans les Beatles, on préférait Lennon à McCartney. J'ai commencé ma carrière de réactionnaire avec cette préférence pour McCartney. Et tout d'un coup, j'ai été renforcé par votre père.
Alors, je sais pas, c'est simple, ça reviendrait à dire que mon père était réactionnaire et je pense que ça ne lui aurait pas plu. Je vous laisse l'apanage de cette appellation.
Écoutez, je ne veux surtout pas l'enrôler au service de ma très mauvaise cause, mais je constate que c'était presque un peu difficile d'aimer McCartney plus que Lennon à l'époque des Beatles. Alors, vous dites que le mot de deuil vous gêne, et vous aussi, Jérôme Garcin. Et là, je pense à un petit livre tout à fait extraordinaire de Roland Barthes, qui n'est pas vraiment un livre qu'il voulait écrire, son journal du deuil. Sa mère est morte. Et il dit, et c'est une des phrases, « Proust parle de chagrin, non de deuil, mot nouveau, psychanalytique, qui défigure. » Et vous aussi, c'est de chagrin que vous parlez, Jérôme Garcin, et vous évoquez précisément et la figure de votre mère et celle de votre frère Laurent. On apprend beaucoup de choses sur l'un et sur l'autre, Jérôme Garcin.
Oui, de même que j'ai voulu qu'on apprenne beaucoup de choses sur Philippe Garcin quand j'ai écrit La Chute de Cheval. Je voulais qu'on sache le critique et l'éditeur qu'il avait été. J'ai même poussé l'illusion littéraire jusqu'à consacrer un livre entier à Olivier, à mon jumeau, considérant que même avec une vie aussi brève, on méritait d'avoir un livre à soi consacré. Pourquoi est-ce que j'ai voulu raconter si précisément qui étaient Laurent et ma mère. D'abord parce que ils étaient liés par une même passion, qui était la peinture, figurative pour ma mère, abstraite pour Laurent, je dirais même brute pour Laurent, qu'ils étaient liés comme je suis lié à eux par une maladie dont nous sommes tous porteurs, qui est le syndrome du X fragile, et que je voulais enfin lier aussi ma mère et mon frère parce qu'il les a portés, l'une et l'autre, c'est-à-dire la foi. Une foi catholique débordante, je dirais même parfois exubérante, et qui a réussi à effacer les problèmes graves qui étaient ceux dont mon frère Laurent était atteint. Pour aller vite, pour ceux qui ne connaissent pas cette maladie, c'était une forme de, c'est une anomalie génétique du chromosome X qui se transmet, qui est donc la deuxième cause de déficience mentale après la trisomie, à la grande différence qu'elle est héréditaire. Et que plus ce X fragile se transmet, plus le mal s'amplifie. Moi, je suis porteur d'une prémutation. Je ne suis pas muté, donc je suis ce qu'on pourrait appeler un malade sain. Mon frère, Laurent, était très lourdement atteint, avec un comportement asocial qui s'apparente encore une fois à, oui, c'est ça, une forme d'autisme.
Autisme plus que trisomie. Parce que la trisomie, c'est un retard, disons, spectaculaire, alors que on apprend que votre frère était hypermnésique, qu'il avait quand même beaucoup d'activités.
Oui, sans pouvoir s'exprimer, sans pouvoir dialoguer avec vous, Alain, étant incapable d'avoir une vie sociale, parlant seul, et ayant des troubles physiques qui sont ceux... D'ailleurs, il est mort du Covid à l'hôpital Pompidou, mais c'est un Covid qui a été déclenché par des facteurs de comorbidité, diabète, obésité, mais d'abord le X fragile, qui a ajouté... Et donc, c'est une maladie que j'ai de la même manière transmise à ma fille, pas à mes fils, mais à ma fille, qu'il a elle-même transmise à sa fille, à ma petite-fille, et que cette maladie ne se soigne pas. Elle a des symptômes très, très, très variés. Elle ne peut s'enrayer que grâce, une fois de plus, aux femmes, qui sont nos seules sauveuses dans cette histoire, puisque soit par des amniosynthèses au moment de la grossesse, au bout de 3-4 mois, soit par la gestation in vitro, on peut enrayer ce qui n'est, encore une fois, ce qui, si ça ne l'est pas, contamine des familles entières. Et moi, je viens d'une très grande famille de médecins qui n'a jamais réussi à enrayer cette fatalité. Et Laurent atteint lourdement du X fragile, d'où le titre d'ailleurs, mais fragile, transmis par ma mère. Laurent peignait comme peignent les peintres bruts dont parle si bien Dubuffet, hein. C'était de l'art brut, mais en même temps solaire, alors qu'il était plus noir et ombrageux qu'on ne pourrait l'imaginer. Et il allait tous les dimanches soirs à Saint-Séverin servir la messe, qui était peut-être sa fenêtre, au sens...
Il avait quand même la capacité de servir la messe.
Oui, mais comme vous le savez sans doute, Alain, servir la messe, c'est ne pas bouger de sa place. Hein, c'est pas faire un discours ni. Mais on est arrivé à ce moment magnifique pour moi et bouleversant évidemment. C'est quand moment de la mort de notre mère, c'est Laurent qui a servi la messe, les funérailles de notre mère. Et donc j'ai voulu qu'on voit qui ils étaient, que même Laurent, qui était handicapé, hein, puisque j'avais fait reconnaître ce handicap par la MDPH à Paris, ce même handicapé était un peintre solaire. Et ma mère, qui avait vécu les drames qu'on a déjà évoqués, continuait à survivre à tout ce qu'elle avait connu de tragique par la peinture, par l'amour de l'art, par l'amour de la culture et par cette foi qu'elle partageait avec son grand ami Michael Lanzal, et quand je les voyais partir tous les deux pour l'église Saint-Séverin, claudiquant l'un et l'autre, on aurait dit Clémenceau et Monet à Giverny, ils étaient là, ou deux personnages de Beckett qui attendraient Godot du côté de Saint-Séverin, c'était absolument bouleversant. Et ça a été vraiment, je pense, la raison pour laquelle elle a résisté à la disparition de mon père et de mon jumeau. Dieu merci, il lui a été épargné d'assister au dernier jour de Laurent, 6 mois après.
Laurent, dont vous dites que son émouvante tête d'Aramis est reintée de mousquetaire chahuté, retour de cavalcade et de rix, avec moustache, barbichette et double menton, vous émouvait particulièrement. Adèle Van Rett, est-ce que, justement, dans le chagrin, puisque ce mot est peut-être... plus approprié que celui de deuil, la foi a joué un rôle pour vous. Est-ce que elle a ou non atténué ce chagrin, ou bien précisément inconsolable? Cela veut-il dire pour vous qu'il n'y a pas... La finitude est sans appel.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que la foi n'a joué aucun rôle parce que je ne l'ai pas, parce que mon père ne l'avait pas, parce que je partage avec mon père une absence totale de transcendance et de postulation d'une existence au-delà ou après la mort, disons. Ce que moi j'ai transformé, en tout cas je ne peux parler que de moi, en un goût immodéré pour ce qui est, pour le réel, puisque c'est tout ce que nous avons et qu'il n'existe aucune autre forme d'existence que ce que nous avons sous les yeux et ce que nous pouvons toucher de nos mains, eh bien c'est cela que je cherche à creuser et c'est cela que j'aime. Je parle vraiment de goût et l'épreuve de la mort de quelqu'un, mais à l'épreuve aussi ce goût-là pour la vie. Et peut-être que quand le goût revient, le goût du réel revient, on sait qu'on est indemne et que ça ira. Mais oui, le mot d'inconsolable, au fond, je le décline de deux façons. Inconsolable, c'est en effet la personne qui vient de perdre un père, quelqu'un de très proche, lié par un lien affectif très fort, et qui, un temps au moins, mais peut-être plus longtemps, n'accueille aucune consolation, voire la refuse, et on pourra y revenir. Mais inconsolable, pour moi, c'est aussi un concept que je propose, une hypothèse de pensée qui pose que nous sommes tous de naissance inconsolables. C'est-à-dire que nous naissons avec un manque, une brisure, une fêlure, quelque chose de cassé, comme un espace à combler, qui fait que nous passons notre vie à chercher des consolations que nous aurons peut-être, car les consolations existent, mais pas la consolation ultime. La foi, dans cette perspective, serait peut-être une manière, justement, de chercher cette consolation ultime en laquelle moi-même je ne crois pas. Donc c'est là où vous avez raison de lier inconsolable et absence de foi. Est inconsolable celui qui pense que finalement c'est de la mort que nous ne nous remettrons pas et que c'est notre finitude qui nous rend inconsolable. De quoi sommes-nous tristes? De la certitude que notre vie a un terme, que ça ne va pas durer, nous n'avons pas demandé à naître au monde et en plus cette vie ne durera pas. Et c'est le deuil de l'éternité que nous devons faire, même si nous ne l'aimons pas forcément.
Alors, Jérôme Garcin, vous citez cette phrase de Thérèse de Lisieux dans Mes Fragiles. « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Et vous dites aussi, à la fin du livre, que vous avez retrouvé des lettres de votre mère et des lettres qu'elle écrivait juste après la mort du jumeau. Et elle dit ceci, « Olivier n'est pas loin, c'est votre jumeau, et nous en parlons souvent avec Jérôme, qui comprend tout ce que j'explique. Nous parlons du paradis, des saints, des merveilles que Dieu a faites, si claires pour moi maintenant. Voici votre commentaire. Des merveilles que Dieu a faites. Ô mon Dieu, ai-je envie d'ajouter. Comment peut-on parler de merveilles ? Donc, la foi, pour vous, n'atténue pas le chagrin.
Je ne crois pas qu'il s'agisse de savoir si on a ou pas la foi. Je dirais que, je pousse la formule plus loin encore, je dirais, est-ce qu'on a la foi en la présence des morts ou non ? Vous connaissez sans doute, Alain, peut-être que si vous ne l'avez pas lu, il faut que vous le lisiez à l'Académie française, ce texte magnifique qu'avait écrit l'éloge qu'avait fait d'Anatole France Paul Valéry.
Oui, bien sûr, où il n'avait pas parlé du roman.
Mais en revanche, il avait eu ces mots magnifiques qui me reviennent comme ça en mémoire. Les morts n'ont que les vivants pour ressources, que je trouve être une formule mais absolument admirable, qui recouvre assez près les propos d'Alain, le philosophe Alain, quand il parlait des morts qui ont besoin de vivre en nous. C'est une question, je le disais, moins de foi que de spiritualité. Moi, je crois à cette présence, je crois même que ces morts, il faut savoir les appeler pour qu'ils vous accompagnent. Je crois profondément... mais la question n'est pas de savoir si on croit qu'il y a une vie après la vie ou pas. Ce que croyait profondément ma mère, c'est de savoir si on est capable de les appeler pour qu'ils soient toujours avec nous. En l'occurrence, mon jumeau m'accompagne depuis nos 6 ans et mon père continue de veiller à me gronder, à me surveiller encore aujourd'hui. Il est mort, il avait 45 ans.
Vous les appelez ou ce sont eux qui vous parlent?
Je pense que je les appelle. Ou plutôt que si je ne les appelle pas, ils ne sont pas là. Vous savez, il m'est arrivé une chose qui est assez belle, c'est que dans ma propre vie, c'est que un de mes 3 enfants, mon fils aîné, a fait le choix de se convertir au judaïsme. Et j'ai vu naître une amitié spirituelle, mais je dirais sublime, entre Gabriel, mon aîné converti au judaïsme, et ma mère, bigote au-delà de Thérèse de Lisieux. Et ils ont communié au sens propre du terme, avec cette conviction l'un et l'autre que les religions se rejoignent dans l'idée, encore une fois, la religion, le judaïsme appelant encore plus à la présence des morts, et je pense que, et je vois encore Gabriel arrivant pour faire ses prières de Kaddish au pied de Laurent, comme au chevet de notre mère, et donc je pense que oui, ça ajoutait à mon éducation, qui est une éducation dont je ne cache pas qu'elle a été nourrie de religion catholique, chrétienne, et de ce qui va avec, les musiques, la littérature qui va avec, m'aide sans doute à pouvoir aujourd'hui appeler ou convoquer ou demander l'aide des disparus.
Oui, mais c'est autre chose quand même. Cette merveille, vous ne vous résignez pas à ce mot de merveille.
Oui.
Et là, vous venez de parler du Cadiz, Jérôme Garcin, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, c'est-à-dire que ma mère, parlant de merveille après ce qu'elle avait vécu et subi, j'ai du mal à... Vous savez, cette religion chrétienne a quelque chose de terrible, c'est que quand meurt un enfant de 6 ans, au lieu de le pleurer, on considère que c'est un don qui est fait à Dieu, et c'est Dieu qui a appelé finalement, c'est un élu. Et c'est ce que ma mère appelait une merveille. Ça, je ne peux pas l'accepter ni m'y faire, à cette idée-là.
Oui, alors justement, ça me fait penser à ce très beau dernier roman, en l'occurrence de Philippe Roth, Némésis, que vous avez lu tous les deux, parce que
bien
je
sûr.
Vois secouer la tête. Bucky Counter, donc, professeur de gymnastique à Newark, est réformé, c'est la guerre, à cause de sa mauvaise vue. Donc, il est directeur du terrain de sport, du terrain de jeu de sa ville natale. Éclate une épidémie de poliomyélite. Un des enfants dont il s'occupe meurt, un parmi d'autres. Il assiste à l'enterrement et il entend le Kaddish, justement. Alors, c'est en hébreu. Mais que dit le Kaddish? Que le nom du Très-Haut soit loué dans les siècles des siècles, béni, loué, glorifié, exalté, magnifié, tout-puissant, célébré, et loué soit le nom du Seigneur. Et Bucky Cantor est révolté. On ne peut pas faire l'éloge de Dieu pour ce scandale absolu. Philippe Roth n'était pas Bucky Cantor, mais il n'a pas voulu de Kaddish au moment de son enterrement.
Bon, ça... Là, on parlait de colère au début de l'émission. Ça, ce type de situation sont de nature à éveiller la colère en moi. Et d'ailleurs, je décris très rapidement l'enterrement de mon père dans le livre. Et je savais qu'il y a une chose que je ne voulais pas, c'était d'entendre de la bouche de personnes qui célébraient la cérémonie qu'il fallait se réjouir d'une manière ou d'une autre parce que la fin de la vie impliquait le début d'une autre, etc. C'est-à-dire que ce sont des types de mots qui sont extrêmement difficiles à entendre dans cette situation-là. Et finalement, c'est assez proche du mot même d'inconsolable. C'est « laissez-moi être triste comme je le suis sans me demander de postuler l'existence d'autre chose, sans même essayer d'attirer vers l'espoir ou vers la joie une situation qui ne l'est pas. » Ça ne veut pas dire que je n'y arriverai pas. De même que peut-être qu'un jour, dans quelques semaines, mois, années, je serai moi-même en position, je me surprendrai à appeler mon père et voir si lui pourrait me gronder, peut-être pas parce qu'il me grondait plus, mais me jouer un air des Beatles. Voilà, ce n'est pas quelque chose que je fais, mais je n'exclus pas que ça arrive. Il faut bien comprendre que tout cela relève d'un j'allais dire processus. Et pourtant, processus renvoie au travail de deuil, qui est une expression que je déteste et qui est très impropre. Mais il y a une évolution dans le temps. On vit avec sa tristesse et celle-ci évolue. Et il importe qu'on puisse
mais
en prendre soin
pas.
Également.
On en prend soin, voilà.
Oui, parce qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on perd quelqu'un, la tristesse est dans un premier temps le seul lien qui nous unit à la personne qui n'est plus. Rien n'est plus terrifiant dans la mort que l'oubli de la personne qui est morte. On cherche des traces, quelque chose qui reste, des photos, des tableaux, des mélodies, des voix. On sait que la voix, on la perdra, qu'on ne l'entendra plus. Et donc tout ce qui relève d'une sorte de preuve d'accroche avec la personne qui n'est plus est à chérir. Et ben dans un premier temps, la tristesse c'est tout ce qui reste. Et c'est pour ça que les injonctions à la consolation peuvent être inaudibles. Ça veut pas dire qu'on revendique une tristesse à vie, et ça veut pas dire surtout qu'on renonce au bonheur, au goût de l'existence et ainsi de suite. Ça veut dire que on apprend à composer avec cette tristesse plutôt que de vouloir l'éliminer à tout prix.
Oui, Jérôme Garcin, vous parliez de la présence des morts parce que il se trouve en effet que les morts n'ont que nous pour assurer cette présence. Sartre disait « Dans la mort, on s'en remet aux autres » ou encore « Être mort, c'est être en proie aux vivants ». Ce qui donne aux vivants une extraordinaire responsabilité. C'est à travers lui que le mort continue à vivre, Jérôme Garcin.
Mais c'est la raison pour laquelle, dès le début, je disais, j'y tiens beaucoup, que vos auditrices et auditeurs comprennent bien que on n'est pas là pour parler que des nôtres, pas que moi, de mes fragiles. Je pense que beaucoup de morts ont besoin de nous vivants pour exister. Je citais en début d'émission le cas, deux cas. Jean Prévost, écrivain de la NRF de l'entre-deux-guerres, mort les armes à la main au pied du Vercors. Quand j'ai décidé de lui consacrer un pour Jean Prévost, il n'y avait pas un seul de ce livre, dont le magnifique La création chez Stendhal, qui est un livre pour moi de référence, qui avait été réédité. Quand je me suis soucié de Jacques Lucéran, cet aveugle qui a créé le premier mouvement de résistance lycéenne, auteur de livres admirables dont « Et la lumière fut », qui est sa traversée du camp de Buchenwald, aveugle, personne ne savait qui c'était, ces livres n'étaient même pas réédités. Il aurait sa place au Panthéon, pour moi, aujourd'hui, à côté de Geneviève Antonios de Gaulle, qu'il a côtoyé à défense de la France. Ce sont pas les miens, mais ils ont besoin des vivants pour exister. Et aujourd'hui, quand on inaugure une école Jean Prévost, une rue Jacques Lucéran, je me dis que j'ai bien fait d'empêcher ces morts de mourir une seconde fois et de vivre encore par leurs œuvres. Donc, je pense qu'il faut être généreux avec les morts, pas qu'avec les siens.
Mais les vôtres aussi.
Bien sûr.
C'est important quand même.
Bien sûr.
Et heureusement que des personnes comme vous existent, et heureusement que certaines personnes ont ce soin de faire vivre ceux qui ne sont plus. Mais je maintiens que c'est une sacrée responsabilité dont je redoute. Et au risque de surprendre, mais que celle-ci n'ait pour conséquence de nous détourner des vivants.
Ah.
Et je tiens beaucoup à ce que le soin que l'on puisse apporter à ceux qui ne sont plus ne nous prive pas de ceux qui sont encore là, de ceux qui le seront. Et que le temps que nous pouvons passer, c'est pour ça que je dis que je suis contente que vous teniez ce discours-là, que moi je ne pourrais jamais tenir, parce que je sais, mais c'est une incapacité, c'est pas un choix, hein. enfin, c'est comme je suis de cette manière-là, mais je sais que je ne pourrais pas passer ma vie à faire en sorte que des gens qui ne sont plus soient à nouveau, qui donnent leur nom à une rue ou dans un livre, etc. Parce que je sais que ce qui me tient, moi, ici-bas, pour prendre un terme qui est plutôt du registre religieux, c'est ceux qui y sont, c'est ceux qui m'accompagnent, c'est ceux auxquels j'ai donné la vie, ceux avec lesquels j'ai choisi de vivre et ceux qui sont encore là.
Oui, mais d'un autre côté, les morts sont sans défense. Adèle Van Rett, et dans l'ignorance de le roman de Kundera, il y a un personnage, Joseph, qui a perdu sa femme, et il se rend compte qu'elle est, elle n'a plus d'influence, on ne respecte plus ses souhaits ni ses goûts, la femme morte ne peut rien vouloir, aspirer à aucune estime, réfuter aucune calomnie, jamais il n'avait ressenti pour elle une compassion aussi douloureuse que lorsqu'elle fut morte. Et il est saisi pour elle d'une sorte de fidélité déraisonnable. Mais c'est l'humanité même, cette fidélité déraisonnable.
Mais vous entendez bien que dans ce passage, il s'agit de la relation entre un vivant et lui-même, qui a besoin, pour être en paix, de ressentir sans doute cette compassion pour cette personne qui n'est plus. Ça n'est pas le mort lui-même qui fait cette demande, puisque le mort, par définition, n'est plus. La discussion qu'on est en train d'avoir, elle est décisive. Pour nous autres vivants, c'est une question d'éthique. Quelle place accordons-nous à ceux qui ne sont plus, pour nous-mêmes et dans la société?
Et pour eux.
Mais eux ne sont plus.
Mais alors,
c'est une demande que nous leur prêtons.
Présence des morts, dit Jérôme Garcin. Et là, je vais vous citer un autre auteur, dont nous parlerons d'ailleurs la semaine prochaine. C'est Vassili Grossman. Sa mère est morte en septembre 1941 à Berditchev, tuée par les nazis. Dans le ghetto de Berditchev. Et il lui écrit en 1950, il a appris sa mort seulement en 1944, et en 1960, deux lettres. Je lis un extrait de la seconde. « Ma très chère, 20 ans ont passé depuis le jour de ta mort. Je t'aime, je pense à toi chaque jour de ma vie. Et ces 20 dernières années, la douleur ne m'a pas lâché. Ma mère chérie, moi c'est toi, et tant que je suis vivant, toi aussi tu es vivante. Et il me semble maintenant que mon amour pour toi se fait de plus en plus fort et me confère une responsabilité toujours plus grande, parce qu'il reste aujourd'hui si peu de cœurs dans lesquels tu vis. » C'est un peu ça aussi, mes fragiles. Jérôme Garcin.
Oui, je voudrais juste ajouter un mot, si vous permettez, Alain, sur ce que vient de dire Adèle, qui pour moi est capital. Déjà, le fait d'écrire, c'est, pour chacun d'entre nous, se retirer du monde réel. Sinon, on ne pourrait pas écrire. Mais écrire sur les morts, sur les disparus, c'est, je dirais, c'est double peine pour les vivants. Et c'est un vrai danger. Je veux dire que, moi, il m'arrive d'avoir peur. Métaphoriquement, de vivre davantage dans les cimetières auprès des miens que j'adore et sans lesquels je n'aurais pas traversé les épreuves que j'ai vécues sans cette femme à qui d'ailleurs j'ai consacré un livre qui s'appelait Théâtre intime, Anne-Marie Philippe, comédienne, pour dire à quelqu'un de vivant que je l'aimais avant nos disparitions. Mais c'est un vrai danger. Et il ne faut pas que le culte des morts, que la croyance en la présence des morts, et c'est pour ça que je souscris entièrement à ce que vient de dire Adèle, nous mette en retrait de ce qui est le plus important. C'est la survie des vivants, et pas simplement celle des morts.
Oui, c'est vrai, mais ça c'est la nature, si vous voulez. De toute façon, on va vers les vivants, on vit, et peut-être il faut-il résister à ce processus pour faire une place, une toute petite place à ceux qui ne sont plus. Car de toute façon, je veux dire, le processus suit son cours, et le processus ne s'interrompt jamais. D'ailleurs, Adèle Van Rett...
On pourrait dire l'inverse, le processus c'est aussi d'aller tous vers la mort. Hein. C'est pas le processus naturel de nous ramener vers les vivants.
Non, alors, mais justement, justement, votre livre, Adèle Van Rett, il y a une coïncidence dans votre livre. Entre votre père, sa mort, et mourir est un long travail. Il meurt longtemps, d'ailleurs vous le dites. Il est atteint d'une tumeur au cerveau. Il a mis 2 ans à mourir. Et puis, vous tombez enceinte. Et donc, vous attendez un enfant pendant que votre père meurt. Et on peut se dire, ben voilà, la vie, c'est la nature. La nature ne s'arrête jamais. Il y a des morts, mais la vie continue. La vie continue. Et qu'en penser ? Moi, quand je dis ça, je me dis qu'il y a aussi une obscénité de la vie. C'est-à-dire que la nature, elle, ne porte jamais le deuil.
Ça, c'est vrai.
Elle ne porte jamais le deuil.
Ou alors,
en même temps, le deuil, c'est l'humanité même.
Ou alors, elle le porte chaque année. Vous parlez d'obscénité, j'évoque dans mon livre l'insolence du printemps, qui, lui, chaque mois de mars, fleurit comme si de rien n'était, parce qu'il renaît de ses cendres, quand nous autres êtres humains n'avons droit qu'à une seule floraison. Donc, il y a cette insolence-là. En ce qui concerne la simultanéité de la fin de vie et de la mort de mon père et de ma grossesse, je n'y ai pas vu et j'ai pris grand soin de ne pas le laisser entendre de cette manière-là, une continuité. Et j'ai beaucoup mis à distance les discours de ceux, pardonnez-moi, qui justement disaient « Ah, qui laissaient entendre, mais ben c'est le cycle de la vie.
Ouais, » C'est le cycle de la vie.
Voilà, ouais. Ton père est mort, mais un enfant arrive. Et je trouvais cette idée, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça, et j'ai tout de suite fait en sorte de distinguer les deux épisodes. Déjà parce que je ne voulais pas que mon enfant, qui n'avait rien demandé, et certainement pas à naître, arrive et joue le rôle d'une sorte de consolation, même inconsciente, de dire « Ah, mon père est mort, mais la vie continue, heureusement j'ai un bébé. » Et je le dis dans le livre, on ne fait pas un bébé comme on prend un mouchoir, c'est pas une consolation. Et ensuite, ça aussi je le mets en scène dans le livre, c'est comme une discussion que j'ai avec ce nouveau-né que je porte contre mon ventre, qui a quelques semaines, et je lui dis, ça n'est pas ton deuil. C'est mon père qui est mort, le tien est vivant. Ça n'est pas, ce sera ton histoire parce que c'est ton grand-père et tu ne l'auras jamais connu. Mais ta venue au monde, si récente, est ton histoire et on va l'écrire ensemble. Ma douleur, mon caractère inconsolable me concerne et tu n'es pas là pour essayer d'atténuer mon chagrin. Et il m'a paru absolument essentiel et sans doute... disons, sain d'essayer de distinguer, peut-être ai-je échoué, parce que je sais aussi que nous sommes mus par beaucoup de choses que nous ne décidons pas, et évidemment quelque chose de ma tristesse s'est transmis à cet enfant d'une manière ou d'une autre, peut-être en réaction d'ailleurs, hein. Mais je ne voulais pas essayer de faire sens avec ce qui venait de m'arriver, et qui pour moi n'a pas de sens. Vous parlez de l'ordre des choses, pour moi c'est pas, je suis pas en colère, il y a juste pas de sens. Ça n'a pas un sens. On peut en construire ensuite et on écrit peut-être pour en donner, mais il y a pas de sens à ce que mon père meure à 65 ans d'une tumeur au cerveau. C'est pas vrai. Il y a pas de sens à ça.
C'est ça le tragique d'ailleurs. Le tragique, c'est qu'il y a des événements dont on ne peut pas rendre raison. On voudrait rendre raison de tout, mais alors ni s'inérationner. Ouais. Et non, le tragique, comme le montre Clément Rosset, c'est l'injustifiable.
Merci de le citer, justement. Et je pense que c'est là, autant je mets à mal la philosophie dans mon livre, parce que je montre que, en ce qui me concerne, elle ne m'a jamais apporté aucune consolation, et que c'est rarement vers les philosophes que je me tourne quand j'ai besoin d'aller mieux. Autant, je crois, c'est la fréquentation de ces textes philosophiques au cours des 20 dernières années qui m'a, pour le coup, aidé à être en paix avec ça. Je n'attends aucune raison. Vous parlez le tragique, bien compris, c'est au fond l'acceptation de l'absurdité de l'existence. C'est ce que je disais tout à l'heure, nous n'avons pas demandé à naître, nous allons mourir, et en plus la vie n'a aucun sens, aucun autre que celui que nous choisissons de lui donner. Et ça, je suis en paix avec ça, je n'attends pas qu'il y ait de raison d'ordre supérieur ou autre. En revanche, qu'on ne vienne pas...
Pas de raison à la mort, notamment.
Non, mais voilà, mais je refuse. En fait, je suis tellement de ce côté-là du tragique que je refuse toute tentative de donner un sens extérieur qui me paraît arbitraire. Non, c'est pas une continuité de l'existence que la mort de mon père et l'arrivée de cet enfant. C'est le fruit du hasard. C'est arrivé ainsi et à moi de raconter l'histoire que je choisis de raconter avec ce qui s'est passé.
Et en même temps,
Jean Gassin,
vous ne pouvez pas ne pas écrire ce livre sans vous dire à un moment donné, ce qui m'est souvent arrivé en écrivant les miens, que quand vos deux enfants auront grandi, qu'ils auront la faculté de lire, ils liront dans Inconsolable aussi qui était leur grand-père qu'ils n'ont pas connu. Ils vont... C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de laisser des traces, c'est pour eux aussi qu'on laisse des traces. Je pense que c'est un de nos privilèges quand on écrit, c'est de donner à voir ce que les autres n'ont pas connu. Moi, quand j'ai écrit ce livre sur Gérard Philipe, je voulais que nos trois enfants connaissent leur grand-père. Même quand j'ai écrit Théâtre intime, je voulais que nos enfants connaissent leur mère quand elle jouait tous les soirs au théâtre. Je pense que ces traces-là. Moi, je suis quelqu'un qui a été traumatisé quand, à 17 ans et des poussières, quand mon père vient de mourir d'une chute de cheval, je rentre dans son bureau. Son bureau à la maison, pas son bureau d'éditeur, pas au PUF, mais à la maison. J'ouvre le tiroir, il écrivait des textes admirables pour la NRF, sur des grands écrivains classiques, sur Rivarol, sur Flaubert, sur Stendhal. Et j'ouvre ce tiroir à 17 ans et je me dis, mais je vais trouver une trace, un texte, il écrivait en plus admirablement bien, de ce qu'on a été, nous, ses enfants, de ce qu'a été sa vie avant nous. Et je n'ai rien trouvé. Et je crois que c'est de ce traumatisme-là qu'est née mon envie et mon besoin d'écrire. C'est-à-dire, je veux pas ne pas laisser de traces.
Ça, c'est passionnant.
À nos enfants.
Et ça fait penser ce que vous dites à la conférence que Roland Barthes a prononcée au Collège de France. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Il rêve d'écrire un roman. Et la première mission qu'il lui assigne, c'est lui permettre de dire ce que j'aime. Ce que j'aime, C-E-X. Et j'espère du roman une sorte de transcendance de l'égotisme, dans la mesure où dire ce qu'on aime, c'est témoigner qu'ils n'ont pas vécu et bien souvent souffert pour rien. Et voilà, la trace, c'est ça.
Oui,
aussi.
Et après, pour être tout à fait honnête, je ne crois pas avoir écrit ce livre pour mes enfants. Et je ne crois pas l'avoir écrit en me disant qu'il pourrait constituer un document, disons, pour que... En tant que fille d'archiviste, le mot document a pour moi toute cette valeur-là, auquel mes enfants pourraient se référer pour connaître leur grand-père. Bah, déjà, mon fils aîné l'a connu et a vécu le deuil, pour reprendre ce mot, de son grand-père. Aussi pour les raisons qu'on disait, c'est que je ne considère pas ce livre comme un portrait de mon père. Je me dis que mes enfants y verront plutôt une sorte de journal de la tristesse, et plutôt la difficulté que j'ai eue à vivre cette expérience-là, et que si j'avais voulu écrire un livre pour eux, c'est pas ça que j'aurais écrit, c'est non, pas ça que j'ai envie qu'ils le voient.
Ils liront aussi l'autoportrait de leur mère.
Voilà, peut-être.
Comme dans le livre précédent.
Peut-être.
Et je crois que ça, c'est magnifique.
Oui, mais ça empêche un peu d'écrire. Alors, sans doute, là-dessus, on est différents, parce que je pense que si je pensais beaucoup à ça, il y a plein de choses que je n'écrirais pas. Parce que l'écriture, vous le disiez très justement, celui qui écrit se met en retrait, il se retire de la société, il est toujours un peu dans la trahison d'ailleurs, parce qu'il n'est pas là, on l'attend, Absolument. Il est en train d'écrire. Et ça, c'est le quotidien des écrivains. Mais il y a aussi, celui qui écrit est confronté en permanence aux obstacles qu'il se met à lui-même. Et la vie de famille en est un, de manière très concrète, matérielle, parce que la vie de famille demande à ce qu'on s'occupe de cette famille, et quand on écrit, on ne peut pas. Mais aussi, on pense... à la réaction de ceux qu'on connaît, qu'ils vont avoir en lisant le texte. Et si je pensais beaucoup à mes enfants en écrivant, je pense qu'il y a des choses que je n'irais pas écrire, de même que si je pensais beaucoup à je sais pas, peut-être à ma mère ou à d'autres personnes, et ça peut m'empêcher d'écrire. Donc moi, j'essaye d'être dans une fausse solitude pour m'autoriser à écrire tout ce que je voudrais écrire, avec pour seul obstacle mon propre surmoi, qui fait pourtant beaucoup son travail. Et ensuite, dans un second temps, il y a un filtre qui arrive.
Alors, vous disiez que vous ne trouviez pas à Delvenrette consolation dans la philosophie. Et je vous citerai pour finir un philosophe dont je vous demanderai si vous êtes d'accord avec la définition qu'il donne de l'amour, en dehors de toute consolation. C'est Lévinas, ce qu'on appelle d'un terme un peu frelaté amour, et par excellence le fait que la mort de l'autre m'affecte plus que la mienne. L'amour de l'autre, c'est l'émotion de la mort de l'autre. Est-ce que vous reconnaissez dans,
moi, oui.
dans cette formulation?
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je pourrais reprendre presque chaque mot. C'est pas forcément joyeux, mais c'est irréfutable. Je ne vois pas d'autre façon d'aimer qu'en privilégiant l'autre par rapport à soi.
Alors ça, oui, c'est intéressant, parce que moi j'ai entendu autre chose. Moi, ce que je retiens de la citation, c'est l'amour de l'autre.
Non, l'amour de l'autre, c'est l'émotion de la mort de l'autre.
Voilà.
Nous rencontrons la mort dans le visage d'autrui, continue Lévinas.
Alors ça, oui, ça c'est tout à fait, toute l'éthique de Lévinas repose sur cette affirmation. L'amour de l'autre, c'est l'émotion de la mort de l'autre. Je me reconnais pas là-dedans.
Ah bon ?
Non. Non, mais je crois que je suis résolument du côté du vivant et pas de la mort. Je ne pense pas à la mort de l'autre quand je pense à l'amour que je porte à mes enfants, à mon compagnon ou à ma famille.
Ah bon.
C'est j'aime leur vie, leur existence. Ça ne veut pas dire que je ne les aime pas jusqu'à la mort.
Mais là encore, je crois que c'est une question d'expérience. Quand on a vu encore une fois un enfant de 6 ans disparaître sous ses yeux, on est obsédé.
Exactement.
Pour moi, l'accidentel peut se passer du jour au lendemain. Moi, j'ai toujours eu peur pour mes enfants. Mais tout le temps, ils sont mis à monter à cheval. Moi, quand je monte, alors que mon père s'est tué d'une chute de cheval, j'ai absolument pas peur. Mais j'ai toujours peur pour eux, que j'aime, et j'ai peur qu'ils tombent. Je pense que c'est
l'imminence de la mort est beaucoup plus présente chez vous.
Ce sont nos expériences qui font notre rapport, je pense, aussi bien d'ailleurs à l'amour qu'à la mort.
Je suis d'accord avec Jérôme Garcin plus qu'avec Lévinas.
Ah non, je suis d'accord avec Jean Garcin et avec Lévinas. Moins tant peut-être au nom de mon expérience de la mort, mais peut-être au nom de mon expérience de l'amour. En tout cas, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Jérôme Garcin.
Merci Alain.
Et Adèle Von Retz. Jérôme Garcin, vous publiez « Mes fragiles » chez Gallimard. Adèle Von Retz, « Inconsolable » également chez Gallimard. Et je terminerai encore sur une citation. Michelet, à propos du duc d'Orléans, assassiné par les Bourguignons. « Rien de tel avant, rien après. Dieu ne recommencera point. Il en viendra d'autres sans doute. Le monde qui ne se lasse pas amènera à la vie d'autres personnes, meilleures peut-être, mais semblables, jamais, jamais. » Voilà, c'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar et Juliette Mouelic, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui, Geoffrey Marianne. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « L'humanité » de Vassili Grossman. Mes invités seront Virginie Bloch-Lenné et Olivier Rollin. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.